RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Tirage au sort dans un quart d'heure maintenant pour les vacances Bellambra. Vous pouvez gagner un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels vacances Bellambra. 45 destinations, c'est dans les plus beaux endroits de France. Mer, montagne, campagne, c'est vous qui choisissez. Vous avez juste à envoyer vacances par SMS au 73216. Vacances par SMS au 73216. C'est un séjour all inclusive, on dit aussi premium, tout compris. On s'occupe des enfants, on s'occupe des amis, on s'occupe de tout pour vous. Voilà, vous êtes comme des coques en pâte, c'est pris en main. Donc allez-y, envoyez vacances par SMS 73216, tirage au sort dans un quart d'heure. Faites-vous plaisir, à vous de jouer, à vous de gagner.
RMC, face aux grandes gueules.
Aujourd'hui dans les GG, Bruno Poncet, cheminot, Antoine Diers, consultant juridique, Laura Barton-Martinez qui est sophrologue, et puis le face au GG avec Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement. Bonjour Madame Thévenot.
Bonjour à tous.
Prisca Thévenot, vous êtes derrière la candidature de Gabriel Attal à l'élection présidentielle. Très mauvaise nouvelle pour vous quand même, cette candidature de Marine Le Pen, parce que quand on voit les intentions de vote, il y a eu plusieurs sondages publiés, c'est la grande favorite de ce scrutin, elle n'a jamais été aussi haute, et elle est même donnée gagnante contre tout le monde, et notamment Gabriel Attal au second tour. Mauvaise nouvelle donc?
Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. La nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui le nom du candidat du Rassemblement National pour la campagne de 2027. C'est acté, c'est fait. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui espérait prendre sa place, Jordan Bardella. Pour le reste, nous sommes prêts à affronter le candidat ou la candidate du Rassemblement National, quelle qu'elle soit.
C'est une candidate plus redoutable que Jordan Bardella.
Ça, on le verra dans la campagne. Et la campagne, elle ne fait que commencer. Et là, j'espère que sur la campagne, on va pas s'amuser matin, midi et soir à commenter ces déboîtes judiciaires, mais plutôt parler du fond. Qu'est-ce qu'elle fait par rapport au réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'elle fait sur la justice, sur l'Europe, sur les relations internationales? Parce que c'est vrai que Marine Le Pen est dans le paysage politique depuis très longtemps, mais pardon, son seul fait politique pour le moment, c'est d'avoir été devant les tribunaux. Maintenant, on veut savoir ce qu'elle a à dire devant les Français.
Mais on le sait. On sait ce qu'elle représente, Marine Le Pen. Et les gens qui ont envie de voter pour elle...
On sait ce qu'elle représente, mais est-ce qu'on sait ce qu'elle fait? Et c'est là aussi le sujet, parce que maintenant, on a l'incarnation, on sait qui sera le candidat, enfin, en l'occurrence, la candidate RN. Mais il y a plein de lignes au sein du Rassemblement National, et on l'a vu au cours des dernières semaines et des derniers mois. Il y a une ligne qui est peut-être un peu plus libérale économique, et puis il y a la ligne qui est très à gauche économiquement. Laquelle va l'emporter, par exemple?
Mais face à la puissance aujourd'hui que représente cette candidate, est-ce qu'il n'est pas temps de vous entendre? Est-ce que ce n'est pas finalement ridicule de
vous entendre
de
avec
voir,
qui
entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, peut-être Bruno Retailleau et d'autres, parce qu'il y a plein de candidats. En fait, on a un bloc qui est prêt, là, le bloc Mélenchon, le bloc Le Pen, et chez vous, c'est la foire d'empoigne, c'est la multitude de
non,
candidats.
Non, c'est pas la foire d'empoigne. C'est vrai qu'on aimerait tout de suite avoir... trois noms pour faire bien dans les commentaires et bien.
Bien, mais pour être efficace.
Justement, pour être efficace, il faut d'abord s'entendre sur le fond, en fait. Sinon, pardon, ça sert à rien d'y aller. Chacun reste chez soi et on laisse.
Différence de fond entre Attal et Édouard Philippe.
Il y en a et c'est heureux. Et justement, la campagne va permettre aussi de dire quelle est. Donner un exemple. Je vous donne un exemple.
Un exemple.
La réforme des retraites. Enfin, je suis pas en train d'inventer un truc. La réforme des retraites. Nous, on se dit, ça y est, les Français en ont assez des réformes paramétriques. Et je sais de quoi je parle. J'ai été sur de nombreux plateaux pour la réforme Borne. Là, l'enjeu, c'est de dire, on change complètement le système des retraites avec une part de capitalisation. Chez Édouard, ils sont plutôt sur une démarche de réforme à 67 ans. Je suis pas en train de faire de la morale, simplement en train de dire quel est le projet qui plaira plus aux Français dans cet échiquier politique. Et il y a plein d'autres sujets comme ça.
Là, vraiment, ce que je viens d'entendre, c'est marquant. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes pour la capitalisation et qu'Edouard Philippe, c'est 67 ans. Sauf qu'Edouard Philippe, c'est lui la retraite à capitalisation. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que Macron contre Macron, que vous allez nous faire le deuxième tour, excusez-moi, la réforme de 2019, c'était la capitalisation. Donc vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que vous êtes en train de vous opposer entre vous.
Non,
de nous faire pendant 10 ans.
Justement,
Madame Prisco.
Prisca, ça sera mieux comme ça.
Thévenot, Prisca.
Ouais.
Excusez-moi,
pas grave.
Tellement, ce qui va vous arriver, c'est que je pense que
là, c'est la chaleur.
Cherchez,
c'est
cherchez. Brûlez Ponceau à côté.
Moi, je suis personne, mais ce que je vois surtout, c'est qu'à mon avis, cherchez pas trop à savoir qui de vous trois, vos candidats, vos quatre candidats, cherchez pas trop, vous serez même pas au deuxième tour. En fait, ce que les gens
vont voir, c'est ça. Bah, du coup, on arrête de débattre et puis on laisse tomber.
Allez-y, arrêtez de débattre, ouais. Arrêtez de surtout nous.
Non,
comme
mais...
la fois, on a eu le maire en train de nous expliquer que si elle était ministre des Finances.
Non, mais je pense qu'on peut avoir ce débat. Je pense qu'on est en France et on a le droit d'avoir un débat politique. Vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire, c'est un fait et je le respecte.
Mais je vais faire comme ça.
Et je le respecte. Et non, mais vous avez le droit de couper la télé.
En 10 ans, vous êtes au pouvoir.
Est-ce que je dis, ok, là c'est bon, on a la petite capsule qui va faire le buzz, il a mis des noms à l'amende, c'est génial. Moi, je suis pas là, je suis pas là pour ça. Ok.
Moi,
j'en ai pas rien à foutre. Moi, j'en ai pas rien à foutre.
Avoir la boîte, avoir la France.
J'en ai pas rien à foutre, comme vous le dites. Moi, je suis là. Non, mais qu'est-ce qu'on fait?
Attends,
non, mais qu'est-ce qu'on fait, Bruno? On s'engueule, on sourit, on fait quoi? On s'écoute.
Moi, je vous écoute.
D'accord.
Non, mais est-ce que.
Donc, ce que je dis, c'est. À un moment, il faut aussi accepter d'apprendre de son expérience. La réforme paramétrique aujourd'hui, ça ne marche pas. D'ailleurs, il n'y a pas unanimité politique dessus. Vous le dites très justement, il n'y a pas unanimité des Français dessus. Par contre, il y a un fait, je suis désolée. Il y a un fait, c'est que notre système de retraite aujourd'hui, il n'est plus financé. On fait quoi? On fait quoi? On s'engueule et on laisse le truc tomber à la ramasse? Ou on essaie de prendre un peu de notre courage, de se dire bah, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, mais on n'a pas le choix. Et on doit commencer à avancer.
À quel moment vous allez acter au sein du Bloc central qu'il faut se mettre autour d'une table et rallier le candidat le mieux placé?
C'est les sondages,
qui vont trancher.
Les sondages, ça peut être un sujet, il peut y avoir la primaire, tout est ouvert, franchement.
À la
franchement,
primaire.
Bah, nous, on n'est pas fermés à des modes de désignation du candidat de ce bloc de rassemblement. C'est pour ça qu'on a mis en place un comité de liaison. Et je le dis assez simplement, on a vu plein de tribunes arriver sur il faut le candidat du centre et de la droite, des injonctions, des promesses sur les plateaux télé. Enfin, c'est bien tout ça, mais en gros, il faut aussi mettre en action cette démarche de rassemblement.
Mais vous avez, comme le dit Bruno, compris que s'il y a plusieurs candidats, il y a peu de chances d'être au second tour.
Ben c'est pour ça.
Aujourd'hui.
Non, mais c'est pour ça que Gabriel Attal a mis en place ce comité de liaison. Pour le coup, tout le monde a souhaité y participer. Horizon, donc nous, Renaissance, l'UDI, le Modem, Parti Radical. Et on met en place les conditions pour qu'on puisse avoir cette capacité de rassemblement. Pas tout de suite, parce qu'il faut aussi que les programmes puissent être débattus. Et c'est quand même heureux. On est sur une campagne des présidentielles qui va durer un an. Pour le coup, on l'a pas vécu il y a maintenant 5 ans. Là, on va pouvoir la vivre pleinement. Ben, débattons du fond. Et puis aussi, laissons les colères s'exprimer. Parce qu'une campagne aussi, c'est ça. C'est aussi ce moment où on se dit, ben, en fait, ça, c'était nul. Ça, ça a bien marché. Ça, j'ai pas compris. Ça, je suis en colère. Ça, je suis plutôt rassurée. Et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir entendre.
Antoine Dierz.
Je pense qu'on arrive à la fin du macronisme, dont vous avez été un des visages brillants avec votre collègue Maud Bréjon. Et vous évoquez Attal, Philippe.
J'évoque Attal, surtout.
J'y vois...
Vous parlez de Philippe.
Non, mais j'y vois gauche, droite. Oui. Et votre parcours parallèle à celui de Maud Bréjon, c'est exactement ça. Vous êtes l'aile gauche et l'aile droite du macronisme qui, finalement, vont exploser et donc... C'est le retour du clivage droite-gauche, c'est la fin de cette réussite d'Emmanuel Macron parce qu'il sera plus là et donc vous allez chacun repartir de votre côté, c'est ça?
Ok, la droite est morte avec Nicolas Sarkozy?
Ouais, je pense.
La droite, alors vous êtes en train de dire à M. Retailleau, à M. Wauquiez qu'il faut qu'ils rentrent chez eux?
Je pense qu'ils n'ont aucune chance. En fait, je pense que comme vous, comme le Bloc
en fait,
central, il n'y a plus de chance.
Je vous écoute.
Clivage,
okay, je vous écoute.
C'est LFI RN aujourd'hui.
Oui. Ben, en fait, par rapport à ça, je vous entends, et je sais, on s'est retrouvés sur d'autres plateaux télé en d'autres temps, et je sais quelle est votre religion politique, donc j'ai pas de débat.
Pas de religion politique, j'ai des idées politiques.
Oui, enfin, c'est une façon de parler, vous en conviendrez, comme le petit laïus que vous venez de faire avant, c'est très beau, mais enfin, honnêtement, dans le débat politique dans lequel on est aujourd'hui, ma famille politique justement, on refuse cette fatalité d'un deuxième tour entre LFI et RN, on la refuse. C'est vrai qu'aujourd'hui les sondages nous disent qu'on se dirige vers ça, on le regarde avec attention, mais on le refuse. Et c'est pour ça qu'on veut que la campagne puisse commencer sur le fond, et qu'on puisse avoir des débats très précis.
Vous assumez que vous êtes l'aile gauche de la Macronie?
Ça veut dire quoi, l'aile gauche de la Macronie?
Bah, c'est ce que ça veut dire.
Je suis libérale économiquement. Est-ce que c'est l'aile gauche de la Macronie?
Oui, bah vous êtes gauche libérale, la gauche libérale. Là, on va ce qui était avant la social-démocratie. En fait, Gabriel Attal vient de la gauche. Voilà, est-ce que vous assumez par rapport à Édouard Philippe qui est plus tourné vers la droite et qui l'assume d'ailleurs, qui le dit?
Ben, mais encore une fois, ça veut dire quoi aujourd'hui? Regardez, on parle de la droite et de la gauche. Parlons de la droite et de la gauche. La droite aujourd'hui, c'est quoi? La droite, quand elle arrive à Matignon, elle n'est pas arrivée à Matignon en 1999. Elle est arrivée à Matignon en 2024. D'accord? Michel Barnier, c'est pas un affreux gaucho. Le premier acte que ce gouvernement a fait, avec tout le respect que j'ai pour eux, et je les ai pas censurés, au contraire, j'ai validé la stabilité politique, c'est d'augmenter d'une les impôts et de deux d'en créer de nouveaux.
Et vous avez
c'est
parlé la droite, de droitière, un truc comme ça.
Non, mais c'est la droite, ça. Ouais. Bon, voilà.
La droite au pouvoir n'a peut-être pas été suffisamment à droite.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui. Bah oui, non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux bien rentrer dans un débat.
La droite, quand elle est au pouvoir, n'assume pas ce qu'elle est, et peut-être d'ailleurs aussi la gauche, elle n'assume pas d'être vraiment à gauche.
Bon, bah alors.
C'est ça qui a brouillé Emmanuel Macron.
Mais le sujet.
Tiré les leçons.
Je pense que.
Mais vous pouvez pas dire que la droite et la gauche, ça n'existe pas, bien sûr.
C'est parce que je suis en train de vous dire, c'est qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui sur le fond? Qu'est-ce qui les identifie aujourd'hui sur le fond? Et de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on est de droite?
La droite est contre la GPA. Gabriel Attal défend la légalisation de la GPA.
Alors, pas toute la droite.
Bah voilà. Écoutez. Non mais vous vous rendez compte, on est en train de rentrer dans un débat philosophique qui est tout à fait intéressant sur est-ce qu'on est de droite, de gauche, etc. pendant qu'on a le réchauffement climatique, pendant qu'on a des sujets de fin de mois, pendant qu'on a la dame qui était au téléphone tout à l'heure qui disait qu'elle s'occupait de sa maman. Eux ils en ont rien à faire, eux ils veulent savoir.
Climatique à gauche.
Allons-y.
On a tout fait pour freiner la climatisation.
Et à droite, on a fait quoi?
Et à droite, le maire de Cannes, David Cisnard, il climatise les écoles. Voilà, il y a deux on voit quand même qu'il y a une.
Et à l'extrême droite, Marine Le Pen nous explique qu'il faut plein de clim partout, mais qu'ils veulent jamais les budgets. Ça agace en fait. Moi, je veux bien qu'on se fasse. Ça agace et ça fatigue. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir parler des sujets de fond. Ensuite, les uns et les autres nous classent comme ils le veulent.
Prenons un sujet de fond, puisque c'est la canicule. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas suffisamment climatisé les hôpitaux? Et aujourd'hui, Sébastien Lecornu est obligé, en catastrophe, de commenter des climatiseurs. Alors, heureusement pour lui, il y a une troisième canicule. Donc,
Non. Il y a un sujet que vous dites qui est très très juste, c'est plutôt que de gérer les crises, il faut les anticiper.
Ah oui.
Et donc sur le sujet, quand on était pour le coup aux affaires, quand Gabriel était aux affaires, sur le sujet des écoles, il a mis en place une grande démarche pour permettre de refroidir les écoles et les adapter. Ouais. Bon, après il s'est passé un truc, c'est la disso. On va pas revenir dessus 20 fois, c'est fait, c'est acté. La dissolution. L'enjeu que nous avons.
Vous êtes trop jeune.
Ouais, je suis trop jeune. À 40 ans, elle est encore jeune.
Elle est déso. C'est la disso.
C'est le nouveau mise.
Non, mais je vais le dire. C'est Thévenot. Enfin, bref, c'est Crispo. Non, mais j'essaie de faire sourire mon voisin face qui veut plus parler.
Il est Crispo.
Non, mais le sujet, on va pas y revenir 20 fois, mais c'est un sujet important. Quand on se dit de façon très simple, c'est le sujet du réchauffement climatique. Il y a effectivement des hivers très rugueux, on l'a vu l'hiver dernier, et des étés beaucoup plus précoces avec des épisodes de canicule que nous vivons à répétition et qui vont malheureusement pas aller en s'améliorant. Sur ça, c'est un plan très simple, c'est climatisation et simplification. La climatisation, pas simplement pour des effets d'annonce et commander des clims, c'est aussi prévoir un système d'énergie viable et en cohérence avec notre empreinte carbone. Ça s'appelle la géoénergie. La géoénergie, ça permet de pouvoir refroidir en été et réchauffer en hiver tout en visant toujours la baisse des effets de CO2 et la baisse de la facture des Français pour l'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi cet enjeu-là. Et c'est ce que nous proposons. Et ensuite, en parallèle de ça, c'est simplifier les normes administratives. Vous l'avez vu, je pense que vous avez parlé sur vos émissions, qui empêchent, par exemple, certaines copropriétés de s'adapter face aux situations.
Vous l'avez pas suffisamment fait, ça, de simplifier. C'est une des promesses du macronisme, la simplification.
Simplifier, on a commencé à le faire et on n'a pas fini. Vous avez raison.
On bute à chaque fois.
Mais vous avez raison.
Est toujours plus forte.
On avait essayé de le faire et on l'a fait notamment sur un certain nombre de pans sur le volet agricole. Souvenez-vous, pendant la crise agricole qui avait commencé en janvier 2024, on a simplifié, on a dénormé, c'est ce qu'on disait à l'époque, un certain nombre de choses qui étaient complètement incohérentes sur la gestion de l'eau, sur la gestion des zones humides, etc. Il y a une grande loi simplification qui arrive aussi dans la foulée. Mais là, il y a eu un problème de portage aussi politique où cette loi a complètement été dénaturée avec les gouvernements qui se sont suivis. Et dont la ligne n'était pas la même après la dissolution.
Mais pourquoi vous assumez pas plus clairement que le bilan est raté? Vous avez un avenir politique devant vous. Vous continuez à défendre la Macronie et en même temps là, vous êtes pas hyper à l'aise parce que
je suis à l'aise.
Grand chose qui.
Moi, je suis à l'aise. Je suis pas devenue chroniqueuse au GG. Je continue à m'engager en politique.
Moi, j'ai arrêté.
Non. L'année prochaine.
Je
voudrais pas être.
J'étais dans le privé avant. Je retournais dans le privé après.
Je voudrais vraiment pas être à votre place parce qu'aujourd'hui.
Mais vous n'êtes pas.
Si je suis content d'avoir arrêté la politique, c'est parce que je détester devoir me trouver comme vous là à défendre des trucs.
Mais je défends pas des trucs, je défends mon pays et je propose des solutions.
Mais alors, essayez, pourquoi vous ne faites pas la rupture dans le macronisme? Il y a personne qui est en mesure de dire que bah non, ça a pas été bon. Mais au centre, on va avoir de nouvelles propositions. Vous répétez les mêmes trucs.
Est-ce que vous êtes prêt à faire un devoir d'inventaire
critique?
Mais regarde, on a le droit de critiquer. D'ailleurs, j'y réponds là aux critiques. J'y réponds.
Bien fait là pendant ces 10 ans. Qu'est-ce que vous regrettez?
C'est quand même génial. Enfin, c'est pas à la hauteur, je pense. Il y a plein de choses sur lesquelles, sur la capacité de revoir un certain nombre de fonctionnements dans notre système tel qu'il fonctionne. Le système politique, le système judiciaire, on l'a vu malheureusement récemment. Mmh. Et puis cette capacité à lutter contre le palpe-vague et l'immobilisme. Sur ça, oui, sur la façon dont on gère aujourd'hui le pouvoir en France et la politique en France, oui, on doit aller plus loin et on doit complètement réformer. C'est ce qu'on propose d'ailleurs. Maintenant, sur d'autres sujets, la lutte contre le chômage, la réindustrialisation, la capacité de toujours regarder vers l'Europe parce que c'est comme ça que ça assurera aussi une puissance, ben ça, pardon, on l'a fait.
Laura Barton, Martinez.
Oui, moi j'ai écouté un petit peu ce que disait M. Attal et en fait j'ai l'impression que ce qui est dit c'est beau, c'est joli, la syntaxe est parfaite, mais dans le fond on n'y va pas. Je me souviens de c'est plus de 100 millions d'économies, etc. Oui, mais dans quoi? Et j'ai pas...
Micro.
Je m'attendais avec un candidat aussi jeune d'avoir des idées qui changent, mais de réelles idées qui changent. Là, hormis, je veux dire, vous allez pas au bout avec la retraite.
Il est sur TikTok.
Par principe, avec un petit peu de capitalisation. Non, il faut une retraite avec de la capitalisation. Maintenant, il faut le dire que même un smicard, il gagnerait deux fois plus d'argent s'il avait sa retraite par capitalisation. Il faut dire les choses correctement. Et en fait, c'est ce qui manque. Et je pensais, de quoi?
Les smicards ne veulent pas capitaliser.
Mais en fait, il faut.
Tu fais comment pour capitaliser quand avec tes 1400 balles, t'arrives pas à finir la fin du mois?
Et parce que l'argent que moi je te prends pour le placer si bien qu'on a un système de retraite qui est en train de s'écrouler, cet argent-là, tu le prends, tu le capitalises comme tu veux.
Chez BlackRock.
Mais t'en as plein. Faut pas être complètement fermé. On a un truc qui est en train de mourir.
Français.
Mais regarde, là, on a
la réforme des retraites de 2019 qui était pas.
Non, mais regarde, on a des entreprises.
De tout le monde.
On a des entreprises monstrueuses qui sont françaises, qui sont détenues par des retraités américains et qui n'appartiennent plus aux Français.
Un fonds de capitalisation.
Mais complètement.
Français.
Mais
ouais, c'est un fonds souverain.
Mais un peu. Là, je suis même pas en train de débattre de mon.
Ça, vous êtes d'accord.
Je suis même pas en train de débattre
plus loin.
De mon idée, c'est là, il faut y aller.
Il faut une rupture.
Là, ça fait 60 ans qu'on a les mêmes ingrédients pour faire la même recette. Et ben la recette, on veut plus la bouffer.
Est-ce que Gabriel Attal, c'est l'homme de la rupture?
C'est l'homme de la rupture sur le système et la façon dont on voit aujourd'hui le système politique, judiciaire, institutionnel qui, pardon, est à bout de souffle.
Donc les solutions,
et c'est pas,
les solutions claires, un truc précis qu'on veut entendre.
Je vous donne un exemple.
Voilà.
Un exemple, là je vous parlais de notre capacité à réformer complètement le système et pas le changer et mettre des rustines, mais un exemple très concret dont on parle pas et pourtant qui fait partie de notre vie et qui va être un sujet des générations à venir. C'est l'IA. L'IA, je suis désolée, c'est le seul candidat à en parler aujourd'hui. Alors que, pardon, quand vous en parlez, c'est en général, ça fait plutôt un peu peur. Et c'est normal, parce qu'on se dit, c'est quoi? Ça va remplacer des jeux. L'IA, déjà, pour être une nation souveraine par rapport à cette révolution qui arrive, parce qu'on peut dire toute la journée, la révolution de l'intelligence artificielle, on veut pas, mais si on la prend pas, elle se fera sans nous et surtout contre nous. Vous parliez des salaires. L'IA permet justement d'améliorer les gains de productivité, permet justement de dégager des marges financières supérieures et supplémentaires, aussi bien pour financer notre système que pour mieux payer les Françaises et les Français. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu aux États-Unis. Leur salaire moyen, eux, a augmenté quand le nôtre n'a pas pu augmenter correctement à cause de ce genre de sujet.
J'entends pas comment vous allez le faire.
Eh ben, comment on va le faire? En prenant le sujet que vous veniez de dire avant, le système de retraite avec une part de capitalisation pour mettre en place un fonds souverain. Et donc, c'est ça aussi aujourd'hui. C'est remettre un système en place qui est vertueux, qui fonctionne et pas en permanence faire des réformes de rustine.
Merci Prisca Thévenot. Désolé, c'est terminé maintenant.
Prisca, désolé Thévenot.
C'est bon, c'est dit. On se retrouvera pendant la campagne électorale.
Avec plaisir.
Le tempo accélère à partir du mois de septembre, de toutes les manières.
Tout à fait. Mais on sera sur le terrain tout l'été.
Sauf s'il y a une Dissot.
Non, mais pas avant, non? Vous avez des infos?
Merci Prisca Thévenot, merci bien. Dans un instant, on va s'intéresser au permis de conduire qui pourrait être suspendu ou retiré préventivement aux consommateurs de drogue. Et c'est dans le cadre d'une nouvelle loi, la loi Riposte. Allez, à tout de suite avec les GG pour en parler au 32-16.
MC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
On va continuer nos discussions, bien sûr, en direct sur RMC et RMC Story. Mais d'abord, on va aller dans le Loiret retrouver Pauline. Bonjour, Pauline.
Bonjour.
Parce que c'est vous qui avez gagné les vacances Bellambra, Pauline.
Ah, c'est super, merci beaucoup.
Félicitations, les vacances Bellambra, mer, montagne, campagne, vous allez choisir. C'est un séjour de 2000 euros dans les clubs et hôtels. Et c'est du tout compris. Voilà, ma chère Pauline.
Super, merci beaucoup, les enfants vont être ravis.
Et je vous en prie, vous avez une petite idée d'où vous voulez partir, mer, montagne, campagne?
Oh, je pense qu'on verra sur le moment, mais peut-être plus la montagne, oui.
Eh bien, prévoyez bien, tranquillement, vous pourrez annoncer la bonne nouvelle à la famille. Pauline, votre fidélité au GG a été récompensée. Félicitations et bonnes vacances, Pauline.
Merci beaucoup.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Petit sujet de discussion avec vous maintenant dans les GG. Dans le cadre de l'examen du projet de loi Riposte, le gouvernement a fait adopter par les députés la possibilité de suspendre de manière... Suspendre de manière
à chaque fois dans la figure
préventive le permis de conduire d'un consommateur de stupéfiants. Alors ça, c'est une nouveauté, c'est inédit.
Oui, c'est assez curieux. Enfin, c'est assez curieux. C'est peut-être intéressant et efficace. En tout cas, Laurent Nunez a défendu cet amendement qui prévoit cette mesure. Donc, en cas d'usage réitéré de stupéfiants, le préfet pourra décider de suspendre le permis de conduire d'une personne pour l'empêcher de prendre le volant. Donc, en fait, c'est avant même qu'il commette une infraction, on lui suspend son permis parce qu'on sait qu'il se drogue. Alors c'est vrai que la drogue au volant, ça fait des ravages. La gauche s'est opposée à cette mesure. La Macronie est assez divisée parce que on est quand même dans la sanction de quelque chose qui n'a pas encore été commis. Est-ce que c'est ça vous choque ou pas? C'est liberticide pour toi.
C'est complètement liberticide. Ça veut dire que t'es puni avant même quoi que ce soit. Et alors c'est bizarre parce que quand moi je parle, donc là on le vote pour un truc qui n'est pas encore arrivé. En revanche, quand moi je demande est-ce qu'il y a un fichier public pour les pédocriminels qui soient condamnés, là on m'attaque sur la liberté de l'individu. Donc moi, j'aimerais bien savoir, à un moment donné, où les gens se positionnent. Que on soit beaucoup plus sévère et qu'on ne se retrouve pas comme Monsieur Palmade à la maison, tranquille ou bilou, avec un bracelet, mais que quand tu as effectivement créé un accident, quel qu'il soit, parce que tu es sous drogue, sous alcool, ou que tu es trop fatigué, et que voilà, ok. Mais on ne va pas commencer maintenant à punir les gens alors qu'ils n'ont rien fait. On se rend compte dans le pays dans lequel on va évoluer,
c'est
là.
C'est pas une punition, pardon. Aujourd'hui, une personne très âgée qui n'est plus en mesure d'avoir tous ses réflexes peut se voir retirer le permis parce qu'on considère qu'elle n'est plus en mesure.
Parce que c'est permanent.
Et ensuite, là, tu as des personnes tellement droguées et qui sont jamais en mesure de conduire. Et moi, je préfère qu'on leur retire le permis et qu'on leur dise vous conduisez plus, vous êtes.
Donc on va aller aussi chercher tous ceux qui sont tout le temps niolés.
Ouais.
Si et comment tu fais?
Bah, pas de souci. En fait,
et tu ne peux pas.
On peut pas toujours mettre une espèce de morale qui serait de dire ah on peut pas sanctionner les gens avant qu'ils aient commis quoi que ce soit. Alors que l'objectif des élus, c'est d'abord de protéger.
Donc
la société.
Du coup, tu t'assois sur la présomption d'innocence.
Mais c'est pas une question de présomption d'innocence. On n'a pas dit qu'il était coupable.
Il est pas coupable, mais il a une sanction.
Attends, ça n'est pas une sanction. C'est-à-dire que
il n'est plus
en mesure de conduire tellement il est drogué. Nous avons des examens médicaux. Le bonhomme il est en vrac.
Donc c'est un principe de précaution.
C'est ce qu'on appelle une suspension administrative du permis.
Qu'il prenne le volant.
Et donc, quelqu'un qui deviendrait aveugle, tu as un accident, tu deviens aveugle, et le préfet va te signifier que ton permis t'est retiré parce que tu
n'es pas aveugle. Mais tu es d'accord que tu peux pas choisir d'être aveugle ou de pas être aveugle.
Ce n'est pas une sanction de te faire retirer ton permis parce que tu es devenu aveugle.
Tu as des problèmes de drogue.
Ça, je suis d'accord avec toi. Mais alors, dans ces cas-là, on s'assoit sur le fait que l'alcoolisme, c'est une maladie, que l'addiction, c'est une maladie, que les gens qui sont sous antidépresseurs.
C'est une maladie et en même temps un délit. C'est les deux.
Mais ça, je l'entends. Mais à un moment donné, tu ne peux pas. Moi, je suis désolée. Ça veut dire que.
Donc, on attend qu'il y ait un mort.
Non.
Tant qu'il n'y a pas de mort.
Mais c'est pas ça. C'est
mais Laura,
il a encore roulé sur personne.
Un de tes proches est renversé par un automobiliste qui roulait après avoir pris des stupéfiants. Et puis tu apprends que tout le monde savait qu'il avait des stupéfiants, qu'il avait déjà été condamné, etc. mais tu seras la première à en vouloir.
Oui, s'il a été condamné, bah, évidemment c'est, que s'il a été condamné.
La première à vouloir, c'est de.
S'il avait été, condamné en état de conduite sous stupéfiant, effectivement, je suis pour que cette personne n'ait plus permis.
Il a été condamné pour détention.
Détention, consommation. Ah bon,
non.
Je me demande si.
Non. Parce que dans ces cas-là, moi, je peux être. Pardon, mais j'ai fait des grosses fêtes arrosées. J'aurais pu être condamné pour état d'ivresse. Alors, toi, j'ai des dossiers dans mon téléphone. Fais attention.
Ça restera entre nous.
Mais je peux être condamné pour ivresse sur la voie publique. Ça ne veut pas dire que je vais prendre ma voiture complètement arrachée.
On parle quand même d'une loi qui va être votée par des gens qui se mettent des caisses pendant leur temps de travail au bar de l'Assemblée. On parle avec des gens. Quand on leur demande de faire des tests de drogue,
on n'a pas le droit d'avoir des résultats.
À un moment donné, moi, je veux bien tout. Parce que, en fait, non seulement c'est liberticide, mais c'est qu'en plus. Enfin, c'est quoi la preuve, en fait? On est dans un pays, quand même, aujourd'hui, où les addictions aux médicaments, à l'alcool et à la drogue n'ont jamais été aussi hautes. On ne traite pas les addictions des gens. On ne sait pas pourquoi.
L'un n'empêche pas l'autre.
Ouais,
on peut à la fois aider les gens à traiter leur addiction et essayer d'écarter de nos routes des dangers publics.
Eh ben, dans ce cas-là, moi, je sais pas, mais quand tu voyais la télé, Johnny Hallyday qui t'expliquait, je prends de la coke tous les jours, c'est pas un problème, et que tu laissais aller sur sa moto ou sur sa Corvette derrière.
C'est pas bien.
C'est pas bien. Mais bon, tout le monde trouvait ça, c'est Johnny, c'est rigolo.
Oui, mais parce qu'on avait, regard. Mais sans doute, on a eu un regard trop tolérant. Moi, je suis pas père la morale, mais moi, je pense qu'on a eu un regard trop tolérant sur les drogues, du manière générale.
Oui,
alors cannabis,
c'est des drogues festives et tout,
etc.
Moi, je suis pas avec toi, Olivier.
T'as un regard trop tolérant. Nirvana et tu viens critiquer Johnny Hallyday. Ouais, mollo.
Il est pas mort de la drogue. Il nettoie son fusil. Il nettoie son fusil, ça a ripé. Attends, le pauvre.
Non, mais. En fait, ce que je comprends, alors c'est peut-être pas la bonne mesure, mais l'idée c'est quand même de. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui roulent après avoir pris de la drogue. On les contrôle très peu parce que c'est plus compliqué à contrôler que l'alcool. Et que si on peut, quand on arrive à les identifier avant, les écarter de la route, c'est quand même une bonne chose.
Et plutôt que de faire des normes sur nos
3200 morts, 11% c'est les stupéfiants.
À mon avis, c'est sous-estimé.
Non, mais plutôt que de faire des normes à nos agriculteurs ou aux constructeurs de bagnoles qui sont parfois complètement illogique, et tu fais en sorte que toutes les bagnoles soient équipées d'un truc où tu souffles, de l'alcool ou t'as du cannabis et ça démarre pas. C'est trop cher, mais donc du coup.
Et après, tu vas pas te plaindre parce que tu vas acheter ta bagnole 60 000 balles. On demande aux constructeurs de faire des trucs de plus en plus compliqués électroniques. Je comprends pas ma bagnole.
Parce qu'il y a des trucs qui servent à rien. Enfin, pardon, le truc qui arrête pas de bouger à chaque fois que je dépasse la ligne. Alors, ça sert strictement à rien.
Il y a sans doute une Laura qui a dû demander. Ça serait bien que
Mais remettons les 4L en place. Alors, attends. Il y aura moins de risques.
Il y en a des 4L, sont électriques maintenant. Agostino d'Eure-et-Loire. Bonjour, Agostino.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure de suspension, alors, dites-moi?
C'est encore de la mesurette, Moi, je vous le dis franchement. Moi, personnellement, j'ai fumé toute ma vie. J'ai aucun mérite, J'ai arrêté il y a 2 ans parce que, j'ai plus d'envie du tout et j'ai vraiment un coup de chance. Sinon, aujourd'hui, je fumerai encore. Enfin, bref. Mon permis a été vu, faut annuler. Donc, c'est mon 9e permis. J'ai toujours roulé sans permis. Donc, une annulation de permis, suspension de permis, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. C'est pour mieux confisquer la voiture. Enfin, confisquer le permis si vous voulez, mais la voiture aussi, quoi. Je veux dire, si vous voulez arrêter de faire des mesurettes, non, il y a que ça. Il y a la répression. C'est la répression, moi, qui m'a.
Oui, qu'est-ce que vous proposez de. Faut mettre en prison directement?
Supprimer la voiture, je parle de supprimer la voiture, moi. Donc, celui-là qui veut prêter sa voiture à quelqu'un qui fume, il réfléchira à deux fois.
Agostino, pourquoi on vous a annulé autant de fois votre permis?
Moi, c'est plus les lignes blanches. Moi, j'étais un chauffeur. J'assume, j'étais un chauffeur. J'étais un chauffeur. Donc, inévitablement, maintenant qu'il y a eu le permis à point, ça m'a un petit peu. Mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir 8 fois mon permis à lui. Je vous explique même pas mon permis d'avant, combien de fois qu'il était suspendu.
Vous avez roulé sans permis et défoncé, quoi, en fait, puisque vous fumiez aussi.
J'ai toujours fumé. Donc, un vrai fumeur, il fume tous les jours. C'est vrai. Oui,
donc vous étiez un danger public.
J'étais un danger public. J'ai jamais eu un grave accident, mais ça aurait pu arriver tous les jours. J'en suis conscient.
C'est irresponsable ce que vous avez fait.
Moi, j'ai fumé aussi, Agostino, mais tu peux pas aujourd'hui faire le père la morale et dire il faut mettre les mecs en zonzon. Moi, j'entends ce que tu dis. Moi, je comprends, mais à un moment donné.
J'ai téléphoné à chaque fois, ça dure 2 minutes. Je suis pas en train de faire la morale. Je te parle de mon expérience personnelle. Maintenant, je peux bien vous donner mon identité exacte. Comme ça, vous demandez à Interpol, vous allez voir mon casier judiciaire.
En plus, vous avez une fiche Interpol.
Je m'en vante pas. Je suis pas en train de me vanter. Non. Moi, ma fierté, c'est que mes enfants,
ils ont un casier judiciaire.
Non, moi, je ne suis pas pour faire la morale, mais ce que je trouve, c'est que, en fait, moi, je comprends je comprends ce que tu dis, mais c'est vrai que l'idée de prendre la bagnole, c'est, moi, ça me paraît être la base. En fait, tu roules la voiture d'un gamin qui a fait un excès de vitesse à 200 km/h. Par contre, un mec qui fume, le mec, il va être, comme il a dit, il a roulé une grande partie de sa vie sans permis. Ce que je trouve choquant, c'est que, moi, je trouve qu'il faut, faudra arriver à trouver un juste milieu entre dire au mec avant que tu fumes, avant que tu conduises.
Moi, il n'y a que la répression qui m'a dressé, moi. Moi, j'en avais marre. Moi, toi, toutes les amendes que j'ai payées,
Mais tout le monde n'est pas comme toi,
Gustavo. Tu m'as fait un bord de la mer, mais je suis pas, je suis pas un cas exceptionnel. Je vous jure que, mais non, n'importe ça, c'est ce que tu crois, ça. Je suis pas un cas exceptionnel, hein. Et je vais vous donner, moi, quand vous voudrez, je vous donne mon état civil. Vous demandez un avocat qui soit mon
cas. Non, c'est, on cerne à peu près.
Non, c'est bon, c'est bon.
On voit à peu près. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous faites amende honorable. Ouais, vous êtes un repenti. C'est l'essentiel.
Ça, oui. Par contre, vous téléphonez à la gendarmerie. Voilà, ils vous diront.
Vous faites gaffe maintenant.
Parce que
tant mieux. C'est bien. T'as raison.
C'est moi qui m'a dressé. J'étais 16 fois en prison. À un moment donné, j'en avais marre.
16 fois en prison.
16 fois en prison, 150 condamnations pour vol. Moi, c'est que des vols. Il y a pas autre chose. Moi, j'étais kleptomane. Voilà. Et je me vends pas. Moi, c'était, le gasoil. J'avais tellement de gasoil, je le vendais, le gasoil. Un bout de cuivre, un bout de métaux, fallait pas qu'il traîne. Voilà. C'était une habitude. C'était ma vie. Tous les jours, je volais. Bon, je passais pas tous les jours au tribunal. Heureusement.
Aujourd'hui. Agostino, l'important, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez rangé des voitures, c'est le cas de le dire. Agostino dit retirer le permis, ça sert à rien. Ce en quoi il a pas tort. On voit déjà le nombre de Français qui roulent sans permis.
Plusieurs centaines de milliers de personnes dans ce pays roulent sans permis.
Tu peux rouler sans voiture.
Est-ce que c'est pas plutôt il a raison la manière force à dire on retire le véhicule
une voiture.
Qu'est-ce que vous en pensez, retirer le permis aux consommateurs de drogue, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça peut être efficace ou pas? Vous dites quand même oui à 74%. Dernier sujet de discussion dans un instant, il manque 50 000 pompiers volontaires. Il va manquer 50 000 pompiers volontaires d'ici 2030 pour faire face aux enjeux des incendies, des inondations et autres. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus de pompiers? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous discutez avec les GG tous les jours de 9h à midi. Bien sûr, vous prenez la parole au 32-16 aujourd'hui avec Antoine Dierce, Laurent Barton-Martinez et avec Bruno Poncet. C'est intéressant de voir, là, on voit énormément les capitaines des pompiers sur les plateaux parler des incendies, de leur engagement. C'est vrai que les pompiers, maintenant, que ce soit sur le front des feux, sur la canicule, aller chercher des personnes seules ou isolées qui se font des malaises, ils sont là, les pompiers. Sauf qu'il y a un vrai problème de recrutement aujourd'hui. Il va, d'ici 3 ans, 4 ans, manquer 50 000 pompiers volontaires. Oui, parce qu'il y a les professionnels et il y a les volontaires et c'est eux qui font la majorité du corps des pompiers. J'adorais cette chanson quand j'étais gosse.
C'est une chanson trop limitante, ça, après.
Elle était énorme. Donc, la Fédération Nationale des Pompiers, ça fait des années qu'ils lancent un appel, et là, l'appel devient pressant. On a besoin de bras. Voilà ce qu'ils disent.
On compte 200 000 pompiers volontaires en France, c'est 80% des effectifs. Donc, volontaires, ça veut dire que c'est des gens comme vous et moi qui décident de s'engager. D'ailleurs, il en manque, selon la Fédération Nationale, il en manquerait 50 000 pour être opérationnel. Alors, il y a des casernes qui organisent des campagnes de promotion, mais on a du mal, on a de plus en plus de mal à recruter. Il y a eu un jeune qui est mort, un jeune pompier qui est mort cette semaine. On pense à lui et à sa famille. C'est un engagement dangereux, mais c'est un engagement citoyen. Il faut être disponible de nuit. Alors, c'est vrai que c'est plus quelque chose qu'on voit à la campagne. Hein. Et puis, souvent, c'est... Moi, j'ai constaté, c'est souvent de père en fils ou de père, enfin de voilà, ça se transmet de génération en génération. Il y a des familles de sapeurs pompiers volontaires. Mais est-ce que vous comprenez que ça baisse? Et est-ce que vous-même seriez prêt? Tiens, toi, Antoine, qui est engagé dans la réserve, est-ce que tu pourrais aussi devenir sapeur pompier volontaire?
Alors, je l'ai longtemps été réserviste et je ne le suis plus. L'armée a mis un terme à mon contrat et donc peut-être
c'est
que
peut-être normal,
je peux me posais la question de remplacer cet engagement par le fait d'être pompier volontaire. À Dunkerque, il y a aussi les sauveteurs en mer chez nous, qui sont voilà la FNSM, qui sont des bénévoles. Et en fait, on le disait tout à l'heure, ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure sur le côté un peu individualiste de nos sociétés, un peu égoïste, et où en fait, on n'imagine plus donner de son temps bénévole ou légèrement indemnisé pour ce type de mission.
Oui, parce qu'il faut préciser que ce n'est pas payé, on est défrayé. Et ensuite, alors en fait, chaque pompier indique sa disponibilité. Alors, ça peut être une heure ou cinq heures. D'ailleurs, on demande aux entreprises d'être assez souples et de libérer en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de départs de feu, de libérer les sapeurs-pompiers des entreprises.
En fait, ton problème, il est juste là. C'est qu'en fait, avant, les entreprises, c'était une fierté quand le mec se barrait de l'usine ou quoi que ce soit. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises maintenant disent, bah, t'es gentil, t'es au boulot, en fait. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est comment, aujourd'hui, t'incites les entreprises à dire, non, mais il est pompier bénévole.
C'est plus important
que son travail, sauf s'il est chirurgien qui est en train d'opérer quelqu'un, mais c'est plus important son travail que d'aller éteindre
un feu. Mais c'est le coût du travail, parce qu'on a été obligé de licencier tellement de monde, parce que le coût du travail pour un chef d'entreprise, il est monstrueux, de la même manière que pour un salarié. Il est monstrueux, donc tout le monde travaille avec des équipes restreintes, et que maintenant tu peux plus libérer autant tes salariés.
En fait, c'est le sujet de la typologie de boîte. Je l'ai vu à la réserve de l'armée. La grosse boîte du CAC 40, elle signe un accord et elle libère ses bonhommes parce que ça va pas la déstabiliser.
C'est ça.
En revanche, boîte. La petite PME où Patrick mardi il sera pas là, qui va faire tourner la machine. Ça c'est pas possible. Ouais.
Donc, on a Julien qui est en Ardèche et qui est sapeur-pompier depuis 13 ans maintenant. Bonjour Julien.
Bonjour, les grandes gueules.
Ça veut dire, vous êtes engagé, vous aviez 22 ans, 23 ans, c'est ça?
C'est ça, en fait, j'ai fait 6 ans dans l'armée de terre en tant que chasseur alpin, et après, il fallait que je retrouve un petit peu ce côté uniforme quand j'ai quitté l'armée. Et donc, du coup, j'ai voulu me réengager dans ma ville où je suis né.
Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a moins d'engagement aujourd'hui pour être pompier?
C'est ce que j'expliquais au standard. En fait, il y a des années de ça, il y a 30, 40 ans, les pompiers, c'était vraiment une famille, quelque chose de passionnant, quelque chose qu'on faisait sans compter. On se retrouvait à la caserne les week-ends, on se retrouvait les soirs entre nous. Il y avait de la camaraderie forte. Aujourd'hui, pour recruter, c'est plus compliqué parce que les contraintes sont de plus en plus lourdes, parce que les interventions sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire que dans le centre où j'évolue, on fait à peu près 3600 départs. Et en fait, il y a 20 ans, ils en faisaient à peine 2000, même pas. Donc, on a évolué sur les interventions. Et puis, la formation est beaucoup plus exigeante aujourd'hui qu'elle n'était il y a 20 ans. Après, on se forme.
Julien, vous êtes ambulancier dans le civil, c'est ça? Enfin, dans le civil.
Ambulancier au SAMU, en plus, ouais.
D'accord. Donc, vous arrivez à vous libérer facilement?
Alors, moi, j'ai un avantage, c'est que je travaille en 12 heures, donc j'ai du temps libre. Et le temps libre, je le donne beaucoup aux pompiers. Mais ça pèse sur le côté familial, le côté personnel. Ça pèse énormément. C'est-à-dire que il y a des petits centres où on est juste avec un bip à la maison. Ça s'appelle des gardes en bip. Et nous, on a un centre où on est en garde casernée pendant 12 heures ou 24 heures.
C'est ça, ouais.
Et vous faites quoi comme boulot dans la vie?
Ambulancier.
Julien, moi, j'avais une question. Comment c'est indemnisé? La réserve de l'armée de terre, c'est correctement indemnisé? Qu'est-ce qu'il en est pour les pompiers volontaires?
Alors, on est indemnisé, on touche des vacations, c'est-à-dire que ça a beaucoup évolué dans les années qui viennent de suivre. Là. Mm-hmm. Ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire que ils ont réévalué les taux horaires, c'est-à-dire qu'une garde de nuit, admettons que on y aille de 19h à 7h, on est indemnisé environ 50 €. Si on sort pas. Et par contre, à des taux horaires, si par exemple on sort à partir de 23h, c'est des taux majorés à certains pourcentages. Et voilà, la vacation, en fait, si on fait pompier volontaire pour l'argent, c'est sûr qu'il y en a qui se perdent. Hein. Ils arrivent, ils regardent les vacations à la fin du mois, ils nous disent « Ah non, ça m'intéresse pas, on a gagné 200 € pour y passer 6, 7, 8, 9 journées. C'est pas la peine, il y en a beaucoup qui repartent. »
Mais Julien, vous êtes dans l'Ardèche, il y a 6000 casernes de pompiers en France. 80% des casernes, elles sont dans les villages, aujourd'hui, tu vois. Oui. Alors, il y a deux corps de pompiers professionnels, c'est les marins-pompiers à Marseille et c'est ceux de Paris.
Non, ce corps-là n'est pas professionnel,
il est militaire, vous avez raison.
Il y a 13 000 pompiers militaires en France, il y en a 44 000 professionnels et il y en a 201 000 volontaires. Sans les volontaires, aujourd'hui, la France, ça tient pas.
Alors, est-ce qu'il faut passer tout le monde militaire ou pas? S'il y a de moins en moins de volontaires.
Mais moi, je pense, à mon simple niveau, en parlant avec les collègues pompiers, qu'il faudrait ouvrir plus de postes professionnels face à des profils comme le mien, éventuellement, qui seraient d'accord pour qu'on fasse une passerelle. C'est-à-dire que moi, je suis pompier volontaire depuis 13 ans, chef d'agré, etc. Je serais d'accord pour éventuellement passer un concours, voilà, c'est sûr. Mais devenir professionnel, ça me tente. Mais c'est tellement dur. C'est-à-dire que aujourd'hui, professionnel, en national, ils ouvrent. Je vais grossir les chiffres. Ils ouvrent 1000 postes et il y a 20 000 candidats. Et c'est extrêmement dur.
Et il y a numéro exclusif aussi, quoi, limite.
Exactement. Et en fait, c'est parce que au niveau départemental, il n'y a pas de budget pour.
C'est le budget du.
Mais c'est ça, c'est le budget.
C'est les budgets départementaux.
Budget du 10, voilà.
Ouais, mais en plus, Julien, si tu avais par exemple l'examen, t'es même pas sûr d'être dans ta région parce que des fois, ça serait ouvert à côté ou à 50 km ou 60 km.
Julien, on a un dernier exemple, celui de Frédéric. Bonjour, Frédéric.
Merci pour ces moyens, Julien.
Bonjour, bravo. Frédéric, vous avez été pompier, vous?
Ouais, c'est ça, pendant 15 ans.
15 ans. Et vous le regrettez ou pas?
D'avoir arrêté?
Ouais, non.
Bah, pour les feux de forêt, je regrette un peu parce qu'il faut dire quand même si ça paraît terrifiant, c'était des très bons moments.
Mais ouais. Et pourquoi on trouve plus de pompiers aujourd'hui?
Ben, parce qu'à la base, il y a toujours eu un manque de personnel. Et le manque de personnel s'aggravant, au bout d'un moment, tu te retrouves de garde un week-end sur deux.
Ouais, oui.
Et puis quand c'est pas les gardes un week-end sur deux, bah, tu remplaces tes collègues qui eux peuvent pas parce qu'ils sont coincés. Mmh. Et puis à côté de ça, t'as les manœuvres secourisme, les recyclages secours routiers, recyclage feux de forêt. Mmh.
Et donc les entreprises peuvent pas libérer, quoi, en fait, c'est ça, quoi.
Ah non. Puis en plus, moi, j'étais dans une entreprise où on était 1200. Donc tu peux pas partir de la chaîne comme ça.
C'est sûr.
Voilà, c'est pas possible. Mmh. Et donc,
vous avez été un peu dégoûté par ça?
Ouais.
Pourquoi?
Oui, parce que j'avais plus de vie de famille, en fait. Moi, en plus, à l'époque, j'avais une compagne qui travaillait aussi dans le médical. Donc elle travaillait les week-ends. Elle était aide médico-psychologique, donc elle travaillait tous les week-ends. Et moi, j'avais deux petites à gérer. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, bah écoutez les gars, moi, j'arrive plus à assumer mes gardes. J'arrive même pas à rendre les remplacements des gars qui m'ont rendu service. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bah c'est bon.
Non, mais il y a un autre système qui serait peut-être intéressant de mettre en place, c'est plutôt du 80%. Genre 80% chez ton patron et 20% chez les pompiers. Et ce qui fait qu'en fait, les pompiers pourraient te payer ton 20%. Et puis en fait,
ouais, mais tu peux le faire que dans les grandes entreprises, ça, Antoine.
Oui, alors ce serait l'État.
Ce
serait l'État aussi qui pourrait à un moment donné. Bah, de toute façon, les pompiers, c'est.
Non,
c'est,
pas
c'est
forcément. Il y a des fois, ça t'arrangerait d'avoir des contrats en 20 heures, mais personne.
Alors, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que, vu qu'on manque de bras, ça doit toujours se faire sur la base du volontariat, ou tu crées un vrai corps de pompiers, comme celui de Paris, comme celui de Marseille, et tu t'y engages comme dans l'armée, quoi. Tu
vois.
Dans tous les cas, Julien et Frédéric, merci de nous avoir aidé à prendre conscience du problème. On va regarder. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager avec les pompiers? Alors, on va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Prêt à vous engager avec les pompiers? Bon, c'est buggé, tant pis. Assaé, eh ben non, 83%.
L'engagement est dur. Hein.
Ouais,
regardez cette petite musique de vacances qu'on écoute là, parce que c'est la dernière d'Alain Marchal.
Ah oui, c'est Anna, vrai. Je pars en vacances, les amis.
Il y en a deux qui partent en vacances. Il y a Louis Gerbier et Alain Marchal.
Mais on
part pas
ensemble. Non. Ils partent ensemble.
Et il y a ceux qui restent pour tenir la boutique. Anaïs, c'est moi-même.
Moi, je vous retrouve en août, de toute façon.
Et alors, bien entendu.
Charles Magnin est là, parce que ça va.
Lundi, on est là en direct, 9h.
Lundi, il y aura.
On entend un peu le seum de Olivier d'être là.
Pas du tout.
Lundi,
c'est un bonheur.
Charles Consigny, Jean-Loup Bonamy et Fatima Hidbounois. Bonjour Charles Magnin.
Salut les amis. Alors tout de suite, je coupe court aux rumeurs. Estelle Denis n'est pas en vacances. Elle sera là lundi, la semaine prochaine. Évidemment, on continue. Et puis, dans un instant, avec une très belle tablée, hein, Fred Hermel, Yael Mellul, Benjamin Hamard, on va parler de la canicule. Faut-il modifier toute notre organisation? Clément Beaune propose de passer à la journée de travail de 6h30 à 13h30 pour tout le monde, les administrations. On change tout dès qu'il fait trop chaud. Et puis on va parler vacances. Alors pas les vacances d'Alain Marchal a priori, puisqu'on va parler du camping. Ambiance, prix, confort. Est-ce que les vacances au camping sont les meilleures vacances? On en débat au 32-16.
Allez, bonne émission.